Bonjour mes chers auditeurs. Aujourd'hui, nous allons parler de la stratégie d'Israël qui consiste à disloquer le monde arabe. Afin de vous permettre de mieux comprendre ce qui se passe actuellement au Proche-Orient, je voudrais vous faire connaître ce qu'écrivait en 1982, quelques mois après l'invasion du Liban, un géopoliticien israélien, Oded Yinon. Voilà. Ce monde islamique, avec ses minorités ethniques, ses divisions, ses crises internes qui le rongent, voire le Liban, l'Iran non-arabe et maintenant la Syrie, écrivait Yinon, est incapable de résoudre ses problèmes fondamentaux et par conséquent ne peut être une véritable menace pour Israël à long terme. Il l'est cependant à court terme en raison de sa puissance militaire. À long terme, le Moyen-Orient ne pourra pas survivre dans ses structures actuelles sans passer par les transformations révolutionnaires. Le monde islamique n'est qu'un château de cartes construit par des puissances étrangères, la France et la Grande-Bretagne dans les années 1920, au mépris des aspirations des autochtones. Cette région a été arbitrairement divisée en 19 États, tous composés de groupes ethniques différents, de minorités hostiles les unes aux autres, si bien que chacun des États arabes islamiques d'aujourd'hui se trouve menacé de l'intérieur en raison de dissensions ethniques et sociales, et que dans certains d'entre eux, la guerre civile est déjà à l'œuvre. Alors, vous l'avez compris, le rôle d'Israël, ça va être évidemment de faire bouillir la marmite, si j'ose dire, c'est-à-dire de multiplier les conflits. Alors voilà. Premier cas de figure, bien sûr, c'est celui du Soudan. Le plus violemment écartelé des pays arabes islamiques actuels comprend quatre groupes opposés les uns aux autres. Une minorité arabe sunnite, qui domine une minorité d'Africains non-arabes, d'animistes et de chrétiens. En Égypte, on trouve une majorité musulmane sunnite face à une forte minorité chrétienne, groupe de 7 millions d'âmes, majoritaire en Haute-Égypte, qui pourrait bien, comme Sadat en exprimait la crainte dans son discours du 8 mai, réclamer un État qui leur soit propre, une sorte de second Liban chrétien en Égypte. Tous les États à l'est d'Israël sont déchirés en proie à des conflits internes, plus encore que les États du Maghreb. La Syrie ne diffère en rien du Liban, si ce n'est par son régime militaire fort. Mais elle est le théâtre d'une véritable guerre civile entre la majorité de la population sunnite et la minorité alaouite chiite, 12% à peine de la population, qui détient le pouvoir. On voit que les causes de conflits sont sérieuses. Et donc Israël va pouvoir, évidemment, les exploiter. L'Irak, de son côté, je vous rappelle que c'est écrit en 1982, ne diffère guère de ses voisins, bien que là, la majorité soit chiite et la minorité gouvernante sunnite. En Irak, 65% de la population n'a aucune part aux décisions politiques. Le pouvoir est aux mains d'une classe gouvernante représentant 20% de la population, plus une forte minorité kurde dans le nord du pays. N'était son régime fort, son armée et sa richesse pétrolière, le sort de son pays serait analogue à celui du Liban hier, de la Syrie aujourd'hui. Les germes de dissensions internes et de guerres civiles apparaissent déjà autour de la prise du pouvoir en Iran par Khomeini, en qui les chiites voient leur chef naturel. Tous les pays du Golfe et l'Arabie Saoudite sont construits sur du sable qui ne contient que du pétrole. Au Koweït, les Koweïtiens ne constituent qu'un quart de la population. Au Bahreïn, les chiites sont en majorité, mais privés de pouvoir. Dans les Émirats arabes unis, les chiites constituent la majorité, mais les sunnites détiennent le pouvoir. Dans les domaines à Oman, au Nord-Yémen, et même au Sud-Yémen marxiste, où on trouve une minorité chiite substantielle. En Arabie Saoudite, la moitié de la population est étrangère, égyptienne, yéménite, et c'est une minorité saoudite qui détient le pouvoir. La Jordanie est en réalité palestinienne, dirigée par une minorité bénouine transjordanienne, mais l'armée dans sa majorité et la bureaucratie sont palestiniennes. En fait, Amman est une ville aussi palestinienne que Naplouse. Tous ces pays ont des armées puissantes, mais là aussi, tout n'est pas simple. L'armée syrienne aujourd'hui est principalement sunnite, mais dirigée par un corps d'officiers alaouites. L'armée irakienne est chiite et ses chefs sont sunnites. Cet état de fait prendra une grande importance à long terme, car le royalisme de l'armée ne tiendra pas longtemps. le seul dénominateur commun étant l'hostilité envers Israël, et même ce facteur s'avère aujourd'hui insuffisant. Comme nous venons de voir, les Arabes sont divisés. Les autres États musulmans connaissent une situation analogue. L'Iran est composé pour moitié d'une population de langue persane et pour moitié d'un groupe ethnique turc. La Turquie comprend 50% de population musulmane sunnite, d'origine et de langue. L'autre moitié de la population est formée de deux importantes minorités, 12 millions de chiites alaouites et 6 millions de kurdes sunnites. En Afghanistan, 5 millions de chiites forment un tiers de la population. Au Pakistan, 15 millions de chiites mettent en péril l'existence de cet État. Dans ce monde gigantesque et déchiré, vivent des rares groupes de personnes riches à côté d'immenses foules misérables. C'est une situation, dit-il, dit ce géopoliticien, lourde de menaces, de dangers, mais aussi riche de potentialités. Potentialité pour Israël, bien sûr, pour la première fois depuis 1967. Et effectivement, quelles sont ses possibilités, quelle est la stratégie donc d'Israël? Et ce géopoliticien nous les décrit. La décomposition du Liban en cinq provinces préfigure le sort qui attend le monde arabe tout entier, y compris l'Égypte, la Syrie, l'Irak et toute la péninsule arabe. Au Liban, c'est déjà un fait accompli. La désintégration de la Syrie et de l'Irak en provinces ethniquement ou religieusement homogènes, comme au Liban, est l'objectif prioritaire d'Israël à long terme sur son front Est. À court terme, l'objectif est la dissolution militaire de ces États. La Syrie va se diviser en plusieurs États suivant les communautés ethniques, de telle sorte que la côte deviendra un État alaouite chiite, la région d'Alep un État sunnite, à Damas un autre État sunnite hostile à son voisin du Nord, les Druzes constitueront leur propre État qui s'étendra sur notre Golan peut-être, et en tout cas dans le Haran et en Jordanie du Nord. Cet État garantira la paix et la sécurité dans la région à long terme. C'est un objectif qui est dès à présent à notre portée. L'Irak, à la fois riche en pétrole, n'oubliez pas que c'était en 82, et en proie à de graves dissensions internes, est un terrain de choix pour l'action d'Israël. Le démantèlement de ce pays nous importe plus encore que celui de la Syrie. L'Irak est plus fort que la Syrie. À court terme, le pouvoir irakien est celui qui menace le plus la sécurité d'Israël. Une guerre entre l'Irak et la Syrie ou entre l'Irak et l'Iran désintégrera l'État irakien avant même qu'il ne puisse se préparer à une lutte contre nous. Tout conflit à l'intérieur du monde arabe nous est bénéfique à court terme et précipite le moment où l'Irak se divisera en fonction de ses communautés religieuses comme la Syrie et le Liban. En Irak, une distribution en provinces selon les ethnies et les religions peut se faire de la même manière qu'en Syrie. Du temps de la domination ottomane, trois États ou davantage se constitueront autour de trois villes principales, Bassora, Bagdad et Mossoul. Et les régions chiites du sud se sépareront des sunnites et des kurdes du nord. L'actuel conflit irano-irakien peut radicaliser cette polarisation. Il ajoute que la péninsule arabe tout entière est menacée de désintégration aussi, que la Jordanie est un objectif stratégique à court terme et très facile à atteindre, puisque la majorité de la population est évidemment palestinienne, d'autant plus, ces Palestiniens sont renforcés, d'autant plus d'ailleurs, qu'il n'est pas possible pour Israël de laisser se perpétuer la situation actuelle, c'est-à-dire d'avoir des Arabes en Cisjordanie. Il faut les renvoyer, au contraire, là-bas, chez eux, en Jordanie. Voilà, parce que, dit-il, en ce qui concerne Israël, la situation entre les régions acquises en 1967 et les territoires qui les prolongent, ou les zones acquises en 1948, n'a jamais eu aucun sens pour les Arabes, et c'est maintenant aussi facile pour nous, parce que, au point de vue stratégique, il faut absolument, dit-il, que la Judée, la Samarie, la Galilée reviennent sous puissance israélienne. C'est absolument indispensable pour la sécurité d'Israël. Réfléchissez donc à tout cela, mes chers auditeurs, car voilà qui explique bien des choses, à commencer par la cassure de l'Irak, du Soudan, de la Libye, et aujourd'hui, c'est ce qui se passe en Syrie. En effet, cette stratégie qui a été déterminée en 82 éclaire bien les choses. Les Israéliens sont arrivés donc à leur but dans 3 pays sur 4, et maintenant, ils s'attaquent à leurs voisins du Nord, à leurs voisins immédiats. Réfléchissons, et je vous dis au mois prochain, mes chers auditeurs.